22 janvier à Québec et on a 15h14 à l'horloge. Mercredi de la semaine prochaine, le 27 janvier, au restaurant Batifolle de Sainte-Foy, il y aura un dîner-conférence avec Madame Nathalie Elgrabli-Lévy sur le thème « Économie 2010, prendre sa place ». Elle est économiste à l'Institut économique de Montréal, chroniqueuse pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même?
Très bien. Alors, vous êtes prête de votre conférence?
Ah oui. Totalement.
Êtes-vous inspiré par ce qui s'est dit à Lévis dans les deux derniers jours?
Ben, il s'est pas dit des choses vraiment inspirantes, bien franchement. Je trouve qu'on a brassé beaucoup d'air, mais concrètement, bof, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. De toute façon, bien franchement, je m'attendais pas à ce qu'on arrive avec des solutions miracles non plus. C'est pas le fait de réunir certains intervenants dans la société qui fait en sorte que d'ici 20 ans, comme par magie, on va se retrouver avec une économie très prospère. Même que je trouve que c'est un petit peu... Je vais utiliser le terme ambitieux pour pas en utiliser un autre, mais de dire on veut se créer une société ou prendre des décisions maintenant pour se créer une société dans 20 ans... Je trouve que l'horizon, il est pas mal long. Quand on pense que nos gouvernements, ils avaient de la misère à prévoir leurs finances publiques à 60 jours d'intervalle, puis là, ils veulent nous dire ce qui va se passer dans 20 ans. Faut le faire.
Dites-moi, Nathalie, moi, j'ai un peu de misère comme citoyen, comme observateur, à voir constamment le gouvernement faire des réunions, tout ça, alors que moi, j'ai l'impression que comme citoyen, quand j'élis un gouvernement majoritaire, il y a tous les pouvoirs pour aller de l'avant avec des politiques qui jugent bonnes. Si je les aime pas, les politiques, je le mettrai dehors quand j'arriverai à la prochaine élection. Je trouve ça facile de réunir, d'écouter tout le monde, puis de donner l'impression d'un consensus. Je trouve que c'est une façon aussi de noyer le poisson pour pas faire grand-chose.
Ben, c'est une façon de se déresponsabiliser, en fait.
Ouais.
C'est de dire, ben, moi, j'ai pas décidé, c'est la société qui a décidé, c'est le peuple qui a pris les décisions. Or, les gens qui sont invités, quand on pense notamment les grandes centrales syndicales, ils sont pas là pour défendre l'intérêt de l'ensemble de la société. Quoi qu'ils puissent en dire, moi, je ne le crois pas, parce qu'un syndicat, c'est comme n'importe quel autre business, c'est là pour défendre les intérêts de ses propres membres. Donc, je vois vraiment pas l'intérêt de rassembler toutes sortes de lobbies pour savoir qu'est-ce que ces lobbies-là veulent avoir. C'est clair que chacun va vouloir tirer la couverte de son côté. Tout le monde va dire oui, il faut faire des changements, il faut assainir les finances publiques, mais surtout, on touche pas à mes programmes, on touche pas aux privilèges que moi j'ai. Allez donc faire le ménage, mais chez les autres. Donc, c'est stérile, ça mène à rien. Puis effectivement, quand un gouvernement est élu, c'est parce qu'on juge que, bon, ben, vas-y, fais la job, tu as le mandat pour 4 ans pour faire ce que tu as à faire. Et c'est un petit peu choquant. Oui, c'est vrai, il y avait la rencontre à Lévis, mais combien il y a eu d'autres tables de concertation, appelons ça comité d'enquête, de 3-4 personnes pour faire le point sur une grande question, que ce soit sur les finances ou sur la santé. Mais c'est comme on a un ministre de la Santé, on a un ministre des Finances, oui. Pourquoi est-ce qu'il faut aller voir ailleurs pour demander des conseils qui, de toute façon, dans bien des cas, ne sont même pas vraiment suivis.
Et qui se retrouvent généralement, des rapports qui se retrouvent généralement sur des tablettes aussi, très souvent, en tout cas. On a juste à penser à M. Castonguay qui avait fait un rapport, il y a 2 ans, sur le système de santé. Finalement, ça n'a jamais rien donné. On a pris ça, on a mis ça sur une tablette, on dit ça va être bien beau là-haut. Là.
Et il y a eu celui également sur l'avenir des préoccupations dans le secteur agricole. Mm-hmm. Celui-là, je pense, 2 heures après qu'il ait été rendu public, était déjà sur une tablette. Parce que le ministre tout de suite a dit « Ah non, on peut pas toucher à certains programmes aux agriculteurs. » Donc, et hop, mais plusieurs mois de travail sont partis sur la tablette.
Est-ce que, Nathalie, le problème principal vient pas du fait qu'on n'ose pas, puis on l'avoue pas, mais on n'ose pas toucher ou remettre en question quoi que ce soit dans l'ordre établi des choses au Québec? On parle souvent du modèle québécois. Lâchons cette phrase-là, c'est faux. C'est de la rhétorique. Mais quand même, derrière tout ce qu'on... Hier, là, moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais même comme citoyenne payeuse de taxes, Nathalie, quand vous voyez le ministre des Finances dire ce qui est important, c'est d'être heureux, aïe aïe!
Ah oui,
on doit 217 milliards, puis l'important, c'est d'être heureux. Je croyais rêver d'entendre ça d'un ministre des Finances. On n'est pas supposé trouver ça drôle, en plus.
Non, pas du tout. Puis un rêve, c'est plus un cauchemar qu'autre chose. Moi, je m'attendrais à avoir un ministre des Finances qui dit « Bon, ben, je vais prendre mes responsabilités. On n'est pas dans une situation financière qui est soutenable à plus long terme. Prenons les mesures qui s'imposent. » C'est ça le discours duquel on s'attend. C'est un petit peu... Imaginez si maintenant... Vous et moi, monsieur, madame, tout le monde, dans son petit logement à travers le Québec, dit, ben, si si le ministre des Finances dit que l'important c'est d'être heureux et que les finances c'est pas bien grave, ben écoute, oh ben on va les magasiner, on va maximiser la carte de crédit parce que l'important c'est d'être heureux. C'est très choquant d'entendre ça alors que non seulement il devrait prêcher par l'exemple, mais il devrait au minimum tenir un discours qui est cohérent et qui est soutenable à plus long terme, parce que encourager comme ça des dépenses irresponsables, c'est ça qui est le plus irresponsable.
Comment vous avez réagi, Madame El Grabli, quand vous avez, parce qu'hier, une des choses qui a retenu l'attention, notamment à la rencontre économique, c'est les déclarations, la lettre ouverte, en fait, de Pierre-Carl Péladeau, où il remettait en question le rôle des syndicats, en fait, la façon dont fonctionnent les syndicats, la formule RAND, le fait que les cotisations que reçoivent les syndiqués qui sont en grève, ce soit pas imposable et tout ça. Puis tout le monde, d'un même souffle, a commencé à dire, ben, il y avait pas d'affaires à dire ça.
Même
les ministres des Finances, même Jean Charest a remis ça en question, alors qu'il fait simplement soulever ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est de dire, ben, là, on a des choses qui sont établies au Québec. Lui, il dit, ça sera peut-être le temps de revoir comment ça fonctionne.
Ben, écoutez, moi, je suis 100% d'accord avec le contenu de sa lettre. Pour ce qui est de la formule RAND, je peux compatir un petit peu avec les réactions qu'il a reçues, parce que il y a peut-être un an ou deux, je me souviens plus exactement, j'avais écrit une chronique justement où je disais, ben, la formule RAND, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. On peut pas, il faut respecter aussi le droit de non-association des gens. Quelqu'un qui veut pas s'associer à un syndicat devrait avoir la possibilité de le faire. Et j'avais reçu tellement de réactions négatives de la part de syndicalistes essentiellement, que je peux un petit peu compatir avec... en plus, bon, il s'est prononcé à un moment particulièrement délicat, donc je peux imaginer le genre de réaction qu'il a eu. Mais sur le fond, c'est vrai qu'il y a quelque chose de profondément illogique. Et en fait, c'est une entrave à la liberté que de dire à quelqu'un, ben, tu rentres dans telle entreprise, que ça te plaise pas de faire partie du syndicat, just too bad, il faut que tu payes ta cotisation. Pourquoi est-ce que je devrais payer pour quelque chose que je ne cautionne pas? Pourquoi également est-ce que je devrais payer, parce que quand on pense dans le cas particulier de travailleurs à temps partiel, ou il y a des travailleurs qui sont obligés de payer leur formule RAND, mais qui ne sont pas couverts par le syndicat. Donc, si un jour ils ont un problème avec leur employeur, le syndicat va dire, ah ben écoute, débrouille-toi tout seul, moi je te connais pas. Mais en revanche, on les oblige à payer une certaine cotisation. C'est inacceptable, et je trouve ça vraiment dommage que au lieu de se dire, ah ben tiens, voilà un point qui, dans le fond, ne serait-ce que au niveau de sa logique intrinsèque, de se dire, ah ben voilà un point qu'on devrait au moins y penser. On ne demande pas des réactions ou des changements radicaux en 24 heures, de dire, ah ben tiens, ok.
On va regarder ça. Mais j'aurais aimé ça entendre, justement, le ministre des Finances, tout de suite, il dit, les syndicats sont importants, c'est extraordinaire, c'est bon. Mais pourquoi être obligé de dire ça? Et d'autant plus, moi ce qui me tanne beaucoup cette semaine, j'essaie de combattre le fait que la plupart des gens, au fil des années, vous l'avez vu comme moi, délaissent leur droit de vote. Je trouve ça épouvantable. Quand j'ai vu l'élection à Montréal, dans le fond, Gérald Tremblay est élu par 12% des Montréalais. Je pense que c'est pas très sain. Par contre, la morosité et le scepticisme ambiant, ils s'expliquent. Je donne l'exemple, ça touche votre journal, Journal de Québec, Journal de Montréal, depuis des semaines, on fait des sondages très bien articulés sur les intérêts du vrai monde, monsieur, madame, tout le monde au Québec. C'est clair, net et précis que les gens disent, on comprend qu'on pourrait avoir moins de services pour le même prix, on est prêt à avoir des garderies qui coûtent plus cher, par contre, on demande au gouvernement de faire maison nette. Ça n'a jamais été aussi clair. Les gouvernements, quand ils sont en élection, madame Nathalie, nous disent, j'ai parcouru le Québec, j'ai entendu les gens, il y a rien de vrai là-dedans. Ils l'ont d'en face maintenant, et il n'y a personne qui entend le public.
Ben, je pense qu'à un moment donné, ils n'auront plus tellement le choix que d'entendre le public. À l'heure actuelle, je peux encore comprendre pourquoi est-ce qu'on ignore un petit peu ces sondages-là. C'est pour la raison suivante. C'est que oui, c'est vrai que à l'unisson, c'est le message qui va sortir. C'est comme, bon, on est tanné de payer, on ne peut pas payer plus. Puis s'il faut baisser la quantité de certains services, ok, on est disposé à l'assumer. Ça, c'est le message qui va ressortir effectivement de certains sondages. Or, pratiquement simultanément, on va avoir d'autres sondages dans lesquels les gens vont dire oui, il faut assainir les finances publiques, il faut faire quelque chose, mais c'est le syndrome pas dans ma cour.
Ok.
Alors, faut pas toucher à mes programmes. Et donc, il y a comme un message contradictoire. En tout cas, moi, c'est la façon dont je le vois. On envoie à nos gouvernements un message contradictoire. Donc, fais des changements, mais touche pas aux miens. Donc, je pense que là, on est comme dans une période de transition, parce que déjà, j'ai l'impression qu'on a fait du chemin. Au moins, au moment où on se parle, on reconnaît que le Québec n'est pas dans la meilleure position possible, qu'on pourrait faire être dans une situation bien meilleure que celle dans laquelle on est maintenant. Donc, déjà, le fait de reconnaître le problème, je pense qu'on a fait la moitié de la job. La deuxième moitié, c'est de lancer un message qui est cohérent. Et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, nos gouvernements, ils n'auront plus tellement le choix que d'écouter, parce que si le gouvernement en place n'écoute pas, il y aura d'autres partis qui vont saisir l'occasion et qui proposeront probablement des changements auxquels la population s'attend. Je pense qu'on est mûr pour des changements. Ah, non, on n'y est pas encore, on y est presque.
Ah oui. Et croyez-vous, Nathalie, à vos espoirs que moi, ma crainte, savez-vous, c'est quoi? C'est que si je regarde l'histoire des 30 dernières années du Québec, j'ai l'impression qu'on va attendre de subir des changements obligatoires, comme M. Lévesque l'a fait pour les syndiqués en 82, au lieu d'agir. On a toutes les données pour agir, pour être proactif, mais on va attendre de se faire décoter pour être obligé de faire ça.
Ben, si c'est ça qu'il faut, c'est dommage. Ça serait mieux d'être proactif et de prendre les mesures nécessaires avant de se faire décoter. Mais bon, advenant même l'éventualité où on se fasse décoter, si moi je le vois pas comme une grande catastrophe, c'est un message qu'on va envoyer aux Québécois. Il n'en tiendra qu'à nous de se faire recoter un an, deux ans, trois ans plus tard, avec les changements qu'on aura apportés, avec le redressement qu'on aura introduit. À ce moment-là, ben, ça sera à nous de relancer le message, de dire, non, mais regardez, ok, c'est bon, on a fait du ménage dans notre maison et on est bien mieux qu'avant. Mais, non, c'est certain que, idéalement, on a toutes les cartes en main à l'heure actuelle. Il y a un document qui a été sorti par quatre économistes il y a peut-être, je dirais peut-être un mois, c'était juste avant les fêtes, qui fait le bilan sur les finances publiques. C'est un document qui a le mérite d'être très accessible. Pas besoin d'avoir suivi un cours en économie pour le lire ou pour le comprendre. C'est présenté très clairement, c'est du gros bon sens.
Il y avait du Pierre Fortin là-dedans, je pense, c'est ça?
Pierre Fortin, oui, entre autres. Godbout, il y avait Robert Gagné.
Oui, je l'ai parcouru, effectivement, très clair, très simple.
Et je pense que Claude Montmarquette, je ne suis pas certaine sur le dernier, mais je pense qu'il y avait aussi Claude Montmarquette. Bon, donc c'est ça, c'est très simple, c'est accessible pour tout le monde. Je pense que ça serait un bon devoir de citoyen pour chacun d'aller en prendre au moins connaissance, de façon à avoir une perspective d'ensemble, de savoir, bon, on est rendu où exactement? Parce qu'on peut lire plein de choses dans les journaux, à la télé. D'un côté, on nous dit, oui, la dette, c'est grave, il faut faire quelque chose. Puis au même moment, on tourne la page et puis il y a quelqu'un d'autre qui va nous dire, non, 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 c'est un faux épouvantail, on nous énerve avec pas grand-chose. Je pense qu'au bout du compte, il faudrait que chacun de nous allions nous faire notre propre opinion avec des faits et non juste l'interprétation de ces faits-là par X, Y ou Z.
Une des craintes principales qu'on a, Mme El-Grabli, c'est que le ménage que les Québécois souhaitent, que plusieurs souhaitent, dans la maison du gouvernement, des avantages indus, des protections qui n'ont plus leur sens en 2010, on a tous crainte et probablement qu'on va être exaucé dans nos craintes, c'est que ça va être le TVQ qui va être augmenté de 1 ou 2 points, puis on va augmenter les tarifs partout, par-ci, par-là dans le gouvernement, ça risque d'être la solution la plus facile.
À la limite, une augmentation de la TVQ, je l'accepterai à condition qu'on réduise l'impôt sur le revenu. Parce que l'impôt sur le revenu, en soi, ça n'est pas un impôt qui est bénéfique. En fait, c'est un impôt qui amène des effets pervers, qui décourage le travail, qui décourage l'effort, qui décourage l'investissement. Donc, baissons l'impôt sur le revenu, de façon à ce que les gens soient plus motivés à aller travailler, parce que c'est clair qu'au moment où on se parle, il y a des travailleurs qui auraient la possibilité de gagner plus de sous en travaillant davantage, bien entendu, mais qui y renoncent parce qu'ils disent « pour ce que je vais ramener à la maison à la fin de l'année, ça vaut pas la peine ». Et ça, ça nuit à l'ensemble de la performance du Québec. Donc, baissons l'impôt sur le revenu, encourageons le travail, produisons davantage, on va élargir la base fiscale et quitte à compensé par une taxe sur la consommation comme une augmentation de la TVQ. À la limite, ça, je ne serais pas trop réfractaire. Mais c'est clair que de dire, on est dans le rouge, donc Québécois, Québécoises, donnez-nous davantage de votre argent, c'est inacceptable. je pense que les Québécois ont suffisamment fait leur part depuis, je dirais, les 30 dernières années. Quand on se compare au reste du continent nord-américain, c'est vraiment pas à notre avantage. Nous sommes parmi les plus taxés. Quelle que soit la façon dont on prenne le problème, on arrive toujours à la même conclusion. On est surtaxé. Et donc là, je pense que le message il devrait être assez clair que à chaque fois que les gouvernements ont eu des difficultés financières, c'est les travailleurs qui ont été mis à contribution. Là, je pense qu'on est arrivé à un point où le gouvernement est en difficulté financière, mais là, c'est son problème. Il ne faut pas que ça devienne encore le problème du contribuable, où une fois de plus, il va devoir faire des sacrifices pour dépanner les instances gouvernementales. Surtout que quand on y pense, l'année passée à peu près à la même époque, peut-être pas au mois de janvier, mais disons octobre-novembre, on nous disait il faut dépenser davantage pour relancer l'économie. Je pouvais lire régulièrement dans les journaux des phrases du style « avoir un déficit budgétaire, c'est pas grave, c'est un bon outil de relance économique ». Et là, vraiment, j'utilise les termes tels que je les lisais. C'est un bon outil de relance économique. Donc, on a encouragé la dépense, on a encouragé des plans de relance et des subventions et des ci et des ça, de façon un petit peu irréfléchie. Et puis là, on se réveille un an et disons peut-être 14-15 mois plus tard, puis on se dit « ah, ben là, on est déficitaire, il faut nous aider ». Non, c'est comme, t'as pris la décision de dépenser, ben là, écoute...
Assume,
arrange-toi avec. Parce que je pense que les Québécois, ils ont déjà assez de difficultés à joindre les deux bouts, à avoir un niveau de vie convenable. On peut pas encore leur en demander davantage. Ça n'a plus de sens.
Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne conférence la semaine prochaine. On met le lien sur la page de Gilles. Je vous souhaite une belle fin de semaine, Nathalie.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Nathalie Elgrabli-Lévy est économiste à l'Institut économique de Montréal, chroniqueuse pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Elle sera chez nous mercredi la semaine prochaine au restaurant Batifol de Sainte-Foy. D'ailleurs, les billets sont en vente au Batifol du 2800 Boulevard Laurier à Québec. Et elle va parler sous le thème « Économie 2010, prendre sa place ». Elle est très bonne, très efficace, très jolie. Elle a beaucoup de talent et beaucoup d'avantages.